Nous allons vous lire maintenant le passage dans Juges 4 qui servira de base à la prédication de Fanny. Juges 4.
Après la mort d'Éhoud, les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal. Alors l'Éternel les livra au pouvoir de Yabin, un roi cananéen qui régnait sur la ville de Hatzor. Le chef de son armée s'appelait Sisera et demeurait à Ahosh-Gohim. Yabin possédait 900 chars bardés de fer et il opprima durement les Israélites pendant 20 ans. Alors ceux-ci implorèrent l'Éternel. À cette époque, Déborah, une prophétesse, femme de Lapido, administrait la justice en Israël. Elle siégeait sous le palmier qui, depuis lors, porte son nom, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites se rendaient auprès d'elle pour régler leurs litiges. Un jour, elle envoya chercher Barak, fils d'Abinoam de Kedesh, en Nephtali, et lui dit « Voici ce que t'ordonne l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va recruter 10 000 hommes dans les tribus de Nephtali et de Zabulon, et conduis-les sur le mont Tabor. Je mènerai au torrent de Kishom, Sisera, le chef de l'armée de Yabin, avec ses chars et ses troupes, et je te donnerai la victoire sur lui. » Barak répondit à Déborah. « Si tu m'accompagnes, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. »« Soit, lui répondit-elle, j'irai avec toi, mais sache que ce n'est pas à toi que reviendra l'honneur de l'expédition que tu vas entreprendre, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. » Déborah se mit donc en route pour se rendre à Barak, à Kedesh. Celui-ci y convoqua les tribus de Zabulon et de Nephtali. 10 000 hommes le suivirent, et Déborah partit avec lui.
À la même époque, Héber, le Kénien, s'était séparé des autres Kéniens, descendants de Obad, le beau-frère de Moïse, et était venu dresser sa tente près de Kedesh, à côté du chêne de Tsanaïm. Sisera fut informé que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Il mobilisa toutes ses troupes et rassembla les 900 chars bardés de fer. Il achemina toute l'armée de Ahosh-Goïm vers le torrent de Kishom. Alors Déborah dit à Barak, « En avant, c'est aujourd'hui que l'Éternel te donnera la victoire sur Sisera. Il marchera lui-même devant toi. » Barak descendit du mont Tabor à la tête de ses 10 000 hommes. Alors l'Éternel mit en déroute Sisera, ses chars et toutes ses troupes par l'épée devant Barak. Sisera lui-même abandonna son char et s'enfuit à pied. Mais Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Ahosh-Goïm, et toutes les troupes de Sisera furent massacrées. Pas un homme n'échappa.
Sisera s'enfuit à pied jusqu'à la tente de Yaël, la femme de Héber, le Kénien, car la paix avait été conclue entre Yabin, roi de Hatzor, et la famille de Héber. Yaël sortit à la rencontre de Sisera et lui dit « « Entre, mon Seigneur, retire-toi chez moi. Tu n'as rien à craindre ici. » Il la suivit donc dans sa tente et elle le recouvrit d'une couverture. « Donne-moi, s'il te plaît, un peu d'eau à boire, lui dit-il, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre de lait, le fit boire et le recouvrit. Il ajouta, « Va te poster à l'entrée de la tente et si l'on vient te demander s'il y a quelqu'un ici, tu répondras « Personne ». Puis il s'endormit profondément, car il était épuisé. Alors Yaël saisit un piquet de la tente, prit le marteau, se glissa doucement près de lui et lui enfonça le piquet dans la tempe, et le piquet lui transperça la tête et se planta dans le sol si bien qu'il mourut. Sur ces entrefaits survint Barak poursuivant Sisera. Yaël sortit au-devant de lui et lui dit « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il la suivit et vit Sisera mort, étendu sur le sol, la tempe transpercée du piquet. C'est ainsi que ce jour-là, Dieu humilia Yabin, le roi cananéen, devant les Israélites. Leur pression contre lui devint de plus en plus forte et ils finirent par l'éliminer.
C'est un texte qui n'est pas beaucoup prêché. Et c'est pour cela que je l'ai choisi. Je ne sais pas parce qu'il s'agit d'une femme. Et comme moi je suis une femme, j'ai dit, et voilà, moi je veux le prendre. Alors, moi j'ai trouvé quand même ce texte intéressant. Pendant le sens général de l'histoire, de la théorie, mais théologiquement, c'est un texte très riche. Il y a beaucoup à apprendre de ce texte. Alors, comme Roger vient de dire, notre semaine a été dominée par les nouvelles des élections dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et les nouvelles ne sont pas très encourageantes. Nous attendons, nous voulons compter sur Dieu. Et puis, pendant cette élection aussi, il y a une chose qui a un peu tiré mon attention. Contrairement à ce que nous suivons ici en Suisse, ou même en France, où les femmes se bousculent pour accéder à la présidence, au Congo, aucune femme ne s'est pointée candidate à la présidentielle. Et pourtant, nombreuses ont quand même postulé à la députation nationale. Moi, personnellement, je pense que l'environnement politique de notre pays ne favorise pas l'élection d'une femme à la tête du pays. La politique est très violente. Alors les femmes n'ont pas beaucoup de chances de diriger un pays sous cette violence. Alors, je pense qu'il nous faut beaucoup de temps et surtout beaucoup de patience pour qu'un jour nous puissions avoir une femme à la tête d'une nation comme au Libéria. Je suis sûre que ça viendra un jour. Alors, pour revenir à notre texte, le chapitre 4 du Juge s'ouvre avec l'histoire d'une femme. Une femme leader qui a marqué l'histoire du peuple Israël. C'est Déborah, la femme de Lapidot, comme on l'appelle dans la Bible, prophétesse, mais aussi ministre de la justice, puisque juste, c'est ministre de la justice. Cette femme n'a pas hésité de se rendre au champ de bataille pour le bien-être de son peuple. Comment en est-elle arrivée là? Dans un milieu juif qui est bien connu pour sa position peu favorable au leadership féminin. Quel est le contexte de ces récits? Ces récits couvrent une partie de la période la plus sombre du peuple d'Israël. Après Josué, aucun successeur n'était prévu pour les remplacer à la tête du peuple, comme ce fut le cas de Moïse. Le peuple devait apprendre à vivre sous la seule autorité de l'Éternel. Josué les a laissés au pays de Cana, mais ce n'était pas acquis d'avance. Le peuple devait lutter, travailler pour éliminer l'idolâtrie du peuple cananéen. Pour cela, l'Éternel leur a ordonné de supprimer l'idolâtrie pratiquée par les Cananéens. Et cela jusqu'à l'établissement d'une véritable théocratie en Israël, c'est-à-dire un régime qui reconnaît la royauté de l'Éternel seul. Et la vie nationale devait graviter autour d'un seul sanctuaire. À ce terme, Israël pouvait trouver l'unité à la protection et l'unité et la protection dans la soumission et la loi, dans la soumission à la loi et en faisant confiance à l'Éternel. Les affaires courantes devaient être réglées par l'application de la loi sous la présidence des magistrats appelés couramment juges ici. Alors, quelles étaient les fonctions des juges à ce moment-là? Les juges, d'abord, ils étaient avant tout des chefs militaires. Et ils avaient deux fonctions majeures. La première fonction, c'est d'abord appeler constamment Israël à revenir au respect de la loi. Et puis, délivrer le peuple de l'oppression de leurs ennemis sous la conduite de l'Éternel. Alors, Déborah fut le quatrième juge à gouverner le peuple après la mort de Josué. À l'époque de Déborah, contrairement aux instructions de l'Éternel, la scène de la désobéissance se répète comme avant. Ce peuple va de nouveau abandonner les voies de l'Éternel pour adopter plusieurs des idoles de ses voisins. Dès le départ, ce peuple a montré ses limites par son désobéissance, son infidélité, son oubli constant de la loi et son manque de confiance à l'ordonnance de l'Éternel. Au lieu de débarrasser les Cananéens de l'idolâtrie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plutôt commencé à les adopter. Et c'est ce qui a conduit à une profonde dégradation morale avec toutes ses conséquences, comme nous lisons dans la Bible. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés sous la domination des Yabin, les rois de Canaan. Son commandant militaire, Sisera, a cruellement opprimé le peuple d'Israël pendant 20 ans, donc ce n'était pas du tout facile. Alors, ce commandant possédait une armée de cavalerie bien entraînée. Et il avait des chars en fer qui faisaient peur au peuple d'Israël. Les chars, aujourd'hui, on pourrait dire que ce sont des tanks, comme nous voyons souvent dans les pays arabes. Nous sommes en train de voir des tanks en Syrie aussi. Les tanks sont en train de circuler. Et c'est ça. Et je pense que face à cette armée organisée, Israël avait peur. Personne n'osait se soulever. Alors, les Juifs ont sérieusement souffert sous le commandant Sisera. Et comme j'ai dit, personne ne pouvait se soulever contre Sisera. Au milieu de tous ces péchés et idolâtrie généralisée dans le pays, Déborah, comme leader, est restée fidèle. Fidèle à la loi, fidèle au Torah. Alors le peuple a couru vers elle, a couru chez elle pour lui demander conseil et assistance. Elle était donc une femme célèbre, respectée à cause de sa fidélité. Alors que l'état moral et religieux du peuple continuait à se dégrader, la patience de Dieu ne cessait de s'accroître. Dans leur grand désespoir, le peuple a crié de nouveau vers Dieu pour demander secours. C'est alors que Dieu envoya Déborah un message prophétique de libération de son peuple. D'ailleurs, elle chante dans son cantique au chapitre 5, que nous n'avons pas lu. Elle dit qu'elle s'est levée comme une mère à Israël quand tous les gouverneurs ont déserté, quand il n'y avait plus de roi. Voilà le contexte de ce message. Bien que ce contexte nous semble familier, il y a plusieurs éléments qui attirent notre attention dans ce texte. Si nous voulons diviser le texte selon la lecture, vous pouvez bien voir que le texte peut se diviser en trois parties. Ce qui attire l'attention dans cette partie est que la première partie, on trouve une femme qui est déterminée à aller au front pour libérer son peuple, pour le bien-être de son peuple. Mais l'histoire se termine avec une autre femme qui sonne la fête de la guerre. Où sont les hommes? Bien sûr que les hommes sont humiliés. Donc, les hommes sont entre ces deux femmes. Parce qu'il y a Déborah qui va au front avec les hommes, bien sûr. Mais c'est la femme qui a la victoire. Intéressant. Alors, notre message sera centré surtout sur l'analyse caractéristique de ces trois personnages clés dans ce texte. Il s'agit de Déborah, Barack, pas Barack Obama, et Jaël. Alors, le mot clé dans ce texte, ce n'est pas la puissance d'une femme, ce n'est pas l'influence d'une femme, ce n'est pas la popularité d'une femme. C'est juste la foi, l'obéissance et la confiance d'une femme à l'Éternel. Qui est Déborah? Le nom Déborah signifie abeille. Une abeille active en train de produire du miel, tout. Et je pense que Déborah, elle était aussi active en train de donner la parole de Dieu et aider son peuple à revenir à la loi. Donc c'est ça le miel que Déborah donnait à l'Israël. Le texte nous dit que Déborah est la femme de Lapido. J'imagine qu'elle était peut-être mère aussi, parce qu'elle dit qu'elle s'élève comme une mère, donc elle a le sens d'une mère. Et puis elle est l'unique femme et la dernière à exercer la magistrature en Israël. C'est ce qui est particulier à ce texte. Elle est aussi l'unique juge, le magistrat, qui est en même temps prophétesse. Les juges n'étaient pas des prophètes. Ils recevaient la parole de Dieu des autres prophètes. Mais Déborah elle-même, elle est la prophétesse. Donc elle recevait les messages directement et passait à l'application. Il n'avait pas besoin d'intermédiaire. C'est ça qui est intéressant aussi. En plus, elle est l'unique juge qui n'est pas commandant de l'armée. Là encore, c'est intéressant. Elle est juge, mais elle n'est pas commandant de l'armée. Mais elle donnait l'ordre au commandant de l'armée. Parce que juge, là, ce n'est pas juste. La fonction du juge n'était pas juste d'administrer la justice. Juge était le leader, juge était la présidente, donc on pourrait dire le président de la République. Parce qu'à part Dieu, sous la théocratie, il n'y avait personne d'autre. Donc il y avait Dieu, Déborah, les gouverneurs des provinces et les chefs de l'armée. Et le fait qu'elle a appelé Barack pour venir, et Barack est venu, ça montre qu'elle avait de l'autorité. Et puis, elle est respectée dans toute la nation. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que dans les classements des fonctions de Déborah, les textes hébreux la classent d'abord comme femme tout court, et puis femme de Lapido, ensuite prophétesse, et finalement juge. Je n'ai pas compris pourquoi on ne pouvait pas commencer par juge, prophétesse, ou même prophétesse, juge, et terminer par la femme d'eux. Mais là, c'est intéressant. On commence d'abord par la femme, et puis ça continue. Qu'est-ce que cela nous dit? Je pense, moi, comme femme, c'est que notre ministère ou fonction ne change rien à notre nature féminine. Et rien à notre statut de femme ou femme mariée. Quel que soit notre ministère ou fonction, nous restons femmes ou femmes d'eux. Excusez-moi, mes sœurs. C'est fort. Rien ne doit changer. Déborah, malgré son rang élevé et sa popularité, s'il vous plaît, elle a gardé les pieds sur terre en restant femme d'eux. Femme de Lapido. Mais Lapido aussi, de son côté, a compris que sa femme a une grande responsabilité. Et elle a laissé partir au front. Je ne sais pas aujourd'hui combien laisseront partir leurs épouses au front. Je pense que seule la sagesse divine peut mieux nous aider à avoir une compréhension mutuelle de nos limites dans les couples. Autrement, j'avoue que ce n'est pas facile. Les deux fonctions qu'a exercées Déborah présentaient quand même quelques affinités. Par sa parole prophétique, elle exhortait ses compatriotes à revenir au respect des termes de l'Alliance. Et par ses verdicts judiciaires, elle appliquait les normes de la loi de Moïse. Alors cette sagesse divine dont elle était remplie, lui a valu la vénération du peuple qu'elle a établi comme son arbitre. La sagesse divine dans notre vécu quotidien peut attirer vers nous les gens, quelle que soit la détérioration de notre environnement. Déborah est restée fidèle dans un environnement, je dirais, pourri d'immoralité. Elle n'a pas adopté les idoles. Elle n'a pas adopté la façon de vivre des autres. Au contraire, elle n'a cessé de proclamer la parole de Dieu et d'appeler ses compatriotes à revenir à la raison. Je pense que le monde dans lequel nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est presque la même chose. Il y a beaucoup d'idoles autour de nous. Et chacun de nous connaît ce qui est devenu pour lui ou pour elle aujourd'hui une idole. Au lieu de nous débarrasser de ces idoles, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous les adoptons. La façon de vivre. Je ne peux pas citer. Nous connaissons tous. Parce que nous vivons dans un monde qui est aussi pourri d'immoralité. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Qu'est-ce que nous allons faire? Adopter la façon de vivre de tout le monde ou se distinguer comme Déborah l'a fait? Alors, débarrassons-nous de ces idoles. En voulant vivre comme tout le monde, nous perdons nos valeurs chrétiennes. Deuxième personnalité, c'est Barak. Barak, le commandant de l'armée d'Israël, ne se sent pas à l'auteur d'exécuter sa mission. Il est commandant. Il a reçu le message pour aller au combat. Mais il ne se sent pas à la hauteur de le faire. Bien que conscient de la souffrance de ses compatriotes, il semble jeter l'éponge. Il a peut-être peur de faire face à l'armée de Césarée qui est bien organisée, bien entraînée et bien équipée. Et il a peut-être raison. Mais ce qu'il n'a pas cru et qu'il n'a pas réalisé est que l'Éternel, le commandant des commandants, devait marcher à la tête de son armée. C'est ça ce qu'il n'a pas compris. Par manque de confiance à Dieu, Barak a refusé d'entreprendre tout seul cette tâche que Dieu lui a confiée. Il a préféré la présence de Déborah à ses côtés. Dieu ne cherche pas un homme ou une femme tout simplement. Il cherche toute personne qui peut obéir et lui faire confiance. S'il ne trouve pas d'homme pieux qui peut lui faire confiance, eh bien, il choisira les femmes. Parce que ce n'est pas homme ou femme qui l'intéresse. Ce qui intéresse Dieu, c'est notre foi, notre confiance, notre obéissance. Si les femmes sont plus fidèles à sa parole, il fera avec elles. Nous sommes d'accord. Avec ou sans homme, les plans de Dieu doivent s'accomplir. Car Dieu a une mission. Il cherche des hommes et femmes qui peuvent l'accomplir. S'il ne trouve pas parmi les hommes, eh bien, il va aller chez les femmes. Si les femmes peuvent le faire, tant mieux. Et s'il n'y en a pas parmi les femmes, il va prendre chez les hommes. Et s'il n'y en a pas parmi les hommes et les femmes, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit même que si les hommes refusent de l'adorer, il suscitera même les pierres pour l'adorer. Et là, c'est très fort. Pour Dieu, sa mission doit s'accomplir. Un point. Alors Déborah a consenti à accompagner Barak, mais elle a bien averti qu'en dépit de la victoire qu'il remporterait, la gloire reviendra à une femme. Même là, Barak est prêt à perdre son honneur en échange avec la présence de Déborah à ses côtés. Il semble avoir peur de Dieu à cause de tous les péchés, les manquements du peuple, dont il fait partie, bien sûr. Il ne croit pas que Dieu viendra à son secours. Néanmoins, il reconnaît la piété de Déborah, derrière laquelle il cherche à se cacher. Le péché nous empêche d'écouter la voix de Dieu. Au lieu de chercher la face de Dieu, la réaction humaine, c'est de s'isoler, se cacher, se retirer, comme l'a fait Adam et Ève. Alors ici, Barak cherche la même chose. Il ne veut pas se retrouver face à face avec Dieu. Il se reproche quelque chose. C'est pourquoi il veut la présence de Déborah, parce qu'il reconnaît quand même que Déborah, elle est fidèle. Que Déborah communique avec Dieu. Alors Déborah devient ici la couverture de Barak pendant cette guerre. Au lieu que Barak puisse compter sur Dieu, il a préféré compter sur Déborah. Parce qu'il sait le pourquoi. Notre troisième personnage, Jaël, dont on ne parle pas beaucoup, et qui a commis un crime, on va voir pourquoi il l'a fait. Le mari de Jaël, Héber, s'est séparé de ses frères pour s'installer dans les territoires de l'ennemi de son peuple. Il a cherché la paix. Pour vivre en paix, il a préféré signer un accord de paix avec l'ennemi au lieu de les combattre. Cette alliance montre la désobéissance de cet homme au terme de l'alliance de l'Éternel. Jaël est une femme de foi. Elle comprend bien la gravité de cette alliance de son mari. Alliance, je dirais, signée contre nature, mais elle n'avait pas le pouvoir sur les actes de son mari, en tant que femme à ce moment-là. Elle comprenait la gravité de cette alliance. Il devait rester avec ses frères et chercher à combattre l'ennemi. Mais juste pour se protéger, il a préféré signer une alliance pour vivre en paix. Et voilà qu'une occasion s'offre à Jaël. Elle veut en découdre avec l'ennemi de son peuple. Jaël décide délibérément de rompre le pacte conclu entre son mari et Yabin. Son acte à cette époque est qualifié d'une violation flagrante de la loi de l'austérité. Puisque rompre un pacte comme ça, en tout cas, est condamnable. Mais Jaël, en tant que Kénéen, veut rester fidèle à l'alliance de l'Éternel, au péril de sa vie, bien sûr, que de compromettre sa foi. Vaut mieux avoir peur de Dieu qui voit tous nos cœurs et nos actes, même dans l'obscurité, que de craindre un être humain pour paraître bon pour un moment. Et c'est ce que Héber a fait. Dieu voit à Héber l'infidélité, la désobéissance et la corruption. Encore une fois, il va confier sa mission à qui? À une femme. Parce qu'il voit en cette femme la fidélité. La fidélité à son alliance et la confiance. En faisant cela, elle savait très bien que Dieu allait la protéger. Et c'est comme ça qu'elle s'est décidée. On ne dit pas où était son mari à ce moment, mais elle a pris la décision, tout en sachant les conséquences. Pour terminer avec cette armée, ce commandant qui opprimait son peuple. Donc, grâce à la foi, à l'obéissance et à la confiance en Dieu, ces deux femmes ont été la force motrice de la libération du peuple d'Israël sous Sisera. Alors, quelle est la fin de l'histoire? La mort du commandant Sisera a mis définitivement fin aux menaces cananéennes. Et les Israélites ont vécu 20 ans dans la paix sous le leadership de Déborah. Voilà la fin de l'histoire. Qu'est-ce que nous pouvons dire là? La clé de notre victoire sur l'ennemi et de notre bien-être réside dans la foi, l'obéissance et la confiance à notre Dieu. Aujourd'hui en Afrique, en général, et au Congo en particulier, les femmes s'élèvent. Elles s'élèvent pour combattre la corruption. Elles s'élèvent pour combattre la violence. Les femmes s'élèvent parce qu'elles ne veulent plus voir mourir leurs enfants à cause de la corruption généralisée dans le pays. Elles deviennent actrices incontournables dans le développement. Et aujourd'hui, je pense que leurs actes commencent à faire des échos partout. Parce que les discours commencent à changer partout dans des grandes organisations. On commence à parler des femmes. On commence à favoriser les femmes. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y a une force, il y a une force qui est en train de grandir. Pas pour faire le mal comme Jaël, mais c'est pour libérer le peuple. Parce que la femme, elle est au foyer, mais c'est elle qui souffre. Le contexte est beaucoup plus africain. Je ne sais pas si ici c'est la même chose. Mais excusez-moi, je parle beaucoup du contexte africain et surtout du Congo. C'est la femme qui est là, c'est la femme qui s'ouvre. On dit même que la pauvreté aujourd'hui a la figure d'une femme. Parce qu'à travers la femme, on voit la pauvreté. C'est elle qui souffre, c'est elle qui est violée, c'est elle qui est ceci, c'est elle qui est... Donc c'est la femme et elle voit cela, elle ne peut plus rester silencieuse. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a cette émergence des femmes. Pour réclamer la justice. Pour restaurer la justice. Pour montrer aux hommes que c'est assez. Et que la voie qu'ils ont choisie, c'est une voie de perdition. La corruption, la guerre, la violence, ce ne sont pas les femmes qui le font. Il y a des femmes aussi, mais ce sont les hommes qui nous causent ce mal. Donc les femmes s'élèvent pour dénoncer tous ces maux. Elles réclament la paix pour leurs enfants. Alors, pendant tous ces moments, on se demande, où sont les hommes? Que font les hommes? Ce sont des questions qu'on me pose à tout moment. Mais là, tu donnes des microcrédits aux femmes. Mais où sont les hommes? Où sont les hommes alors? Ils sont là. Irresponsables, la corruption, la guerre, le banditisme. Il y a aussi des hommes pieux. Il y en a. Quand nous parlons de la généralité. Il y a des hommes que j'admire, qui sont responsables, qui protègent bien leur famille. Mais en général, moi je dirais 70%, si pas 80%, de cet homme sont dans la corruption et tout. Ce que nous voyons au pays aujourd'hui, ça montre l'agressivité des hommes. Et c'est ça ce que les femmes veulent combattre. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui font vivre les églises. Ça ne se limite pas seulement au foyer, même jusque dans les églises. Qui donne les offrandes? Ce sont les femmes. On trouve les femmes partout, actives dans les églises. C'est pour dire que même à l'église, il y a la corruption. Même là, il y a des conflits. Même là, il y a la violence. Et encore une fois, les femmes s'élèvent. Les femmes comprennent que le bien-être de notre pays se trouve dans la prière et le respect de la loi, le respect de la parole de Dieu. Et elles se donnent à la prière. Il y a beaucoup de femmes qui prient aujourd'hui. Daniel et Francine peuvent témoigner. Quand ils ont vu plus de 800 femmes réunies en train de prier, de glorifier Dieu, et le mot que Francine a retenu, c'était la confiance. Nous avons confiance. Nous avons confiance que Dieu va changer les choses. Si Dieu a utilisé Déborah et Jaël pour établir la paix en Israël, ne peut-il pas utiliser les femmes congolaises pour établir la paix au Congo? Et pourquoi pas en Afrique? Déborah n'était pas seule, elle était avec le peuple et sa victoire était la victoire de tous. Elle a réussi à mobiliser même les gouverneurs des provinces à se rallier au peuple. Elle dit ça dans son cantique, chapitre 5. Donc aujourd'hui, les femmes disent, nous devons aider les hommes. Parce que si nous ne faisons rien, c'est fini pour nos enfants. Et c'est ça ce qui se passe, le contexte de la situation que nous avons aujourd'hui. Car beaucoup d'hommes ont perdu confiance à l'Éternel. Il y en a qui ne prient plus. Tout ce qu'on cherche, c'est courir derrière l'argent. Et on n'est jamais satisfait de l'argent. Ça continue, ça continue, ça continue, même ici aussi. Alors nous avons besoin de plusieurs Déborah au Congo. Pourquoi pas en Afrique aussi? Pour que les choses puissent bouger un peu. Notre mission, comme frères et sœurs en Christ partout dans le monde, c'est de prier pour ceux-là qui sont en train de lutter. C'est de soutenir ceux-là qui sont au front pour qu'il y ait un changement. Parce que ce changement n'est pas juste pour les femmes. C'est pour les familles, c'est pour les communautés, c'est pour les églises et c'est pour la nation entière. Et je dirais même, c'est pour le monde. Que Dieu vous bénisse.